Grand Matin Sud Radio.
Il est 8h moins le quart, vous écoutez Sud Radio, c'est le petit déjeuner politique avec ce matin Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de Force Ouvrière.
Bonjour Pascal Pavageau.
Bonjour.
Pour le grand public qui ne vous connaît pas encore, hein, vous êtes sans doute l'une des personnes très attendues en cette année 2018. Pourquoi ? Ben parce que vous allez devenir le patron de EFO à la place de Jean-Claude Mailly ce printemps, normalement. Et vous êtes très attendu aussi pour défendre les salariés dans toutes les réformes sociales d'Emmanuel Macron. Alors, on veut vous entendre ce matin sur deux gros sujets qui sont à la une. Le contrôle des chômeurs, avec notamment avec le début des négociations sur l'assurance chômage aujourd'hui, et puis les suppressions d'emplois à travers les ruptures conventionnelles collectives. Alors, le contrôle des demandeurs d'emploi présumés feignants, c'était ce que laissait entendre Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a de vrais abus ?
Il peut y avoir des abus, mais il n'y a pas énormément d'abus. Et puis, la question, vous avez raison de le rappeler, c'est avant tout la réforme de l'assurance chômage, telle que l'a voulu le président de la République. Donc, il est quand même assez paradoxal de traiter de la question de l'assurance chômage à travers un point qui est un point quasiment populiste, et permettez-moi de le dire, que tous les gouvernements reprennent.
Emmanuel Macron est quasiment populiste quand il a dit ça, les feignants.
Cette question des sanctions des demandeurs d'emploi est à tout le moins totalement déplacée. On sous-entend derrière cela que les chômeurs seraient responsables de la situation qui est la leur, c'est-à-dire victime du chômage. Donc qu'on s'attaque au chômage plutôt que de s'attaquer aux chômeurs.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus, justement ? Est-ce qu'il y a véritablement en fait des abus ?
Mais vous trouverez toujours une question à un ou deux demandeurs d'emploi qui soit ne veut pas, soit ne peut pas, surtout, prendre telle ou telle demande de poste. Aujourd'hui, grosso modo, 99% des postes dans notre économie qui sont à pourvoir sont pourvus, je dirais, de façon normale par le, passez-moi l'expression, par le marché, de l'offre et de la demande. Donc on se retrouve sur Pôle emploi, sur des offres qui sont souvent les offres que les travailleurs, dans le cadre classique, ne veulent pas. Donc des postes qui sont souvent atypiques ou spécifiques. Et même si vous demandiez à l'ensemble des demandeurs d'emploi, avec un pistolet sur la tempe, de prendre un emploi proposé par Pôle emploi, il n'y en aurait que 1 sur 44 qui arriverait à avoir quelque chose. Donc la question fondamentale, elle n'est pas qu'un demandeur d'emploi, ici ou là, ne peut pas répondre à telle sollicitation en matière de poste, la question fondamentale, elle est s'attaquer aux causes du chômage en amont, c'est-à-dire ce sont des choix politiques et des choix économiques.
Oui, parce que donc bon, c'était de la com', alors autour d'Emmanuel Macron, ce qu'il disait là-dessus. Non ou pas ?
Je sais pas,
Moi j'ai lu que.
Comme Emmanuel Macron, c'est un pléonasme.
Oui, selon une enquête de Pôle emploi, il n'y avait que 0,4% en fait d'abus, justement.
Mais il y a. Encore une fois, vous allez trouver un cas particulier ici ou là, et on veut en faire une généralité. Et puis, ce n'est pas ça la question de la réforme de l'assurance chômage. La question de la réforme de l'assurance chômage, d'abord pour nous, l'essentiel, c'était d'obtenir une négociation. Ouais. Cette négociation entre les interlocuteurs sociaux, elle commence aujourd'hui. Pour nous, c'était indispensable que ce soit d'abord une négociation et pas finalement quelque chose d'imposé par le gouvernement, parce que ça a des conséquences immédiates sur l'ensemble des travailleurs, notamment lorsqu'ils se retrouvent au chômage. Ouais. Ensuite, deuxième élément, l'un des éléments fondamentaux que nous avions demandé, sur lequel s'était engagé le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, c'était de mettre en place un système dit de bonus-malus pour essayer d'éviter, je dirais, l'extension des contrats courts, des contrats précaires.
Oui. Alors on en est où, ça ?
Entre 2000 et, grosso modo, sur les dernières années, sur les 10 dernières années, on est passé à 140% d'augmentation des contrats courts. Moi, ce que je constate, c'est qu'au final, quand il s'agit de flexibiliser le travail et les conditions de travail des salariés comme les ordonnances, là, les promesses sont tenues. Par contre, quand il s'agit de sécuriser les parcours et d'avoir des contreparties pour les entreprises, là, les promesses sont totalement oubliées.
Mais Pascal Pavageau, vous ne semblez pas être contre les ruptures conventionnelles collectives, alors que l'on voit...
Si, vous êtes
contre. Bon, on va en discuter, mais alors, parce que justement, beaucoup d'entreprises, visiblement, ont l'intention de se délester de CDI pour aller engager derrière des CDD.
Si on prend les deux cas particuliers de PSA et de Pinky, ils sont intéressants parce que ce qu'on constate, c'est que les organisations syndicales, FO compris, naturellement, se sont opposées à ce principe d'une rupture conventionnelle collective. Pourquoi ? Pour revenir sur le droit commun, sur le droit protecteur, en disant à un moment donné, il y a une demande de la part de l'employeur, malheureusement, de réduire des effectifs. Donc chacun ses responsabilités. La responsabilité, elle doit être d'abord de démontrer économiquement qu'il y a ce besoin de la part de l'employeur et ensuite d'assurer ses prérogatives en matière de reclassement et en matière de droits pour les travailleurs. Ouais. La rupture conventionnelle collective contre laquelle nous étions dans le cadre des ordonnances est une forme de dire « je renvoie au syndicat la responsabilité d'autodétruire des postes et de suppression d'emplois dans les entreprises. Ouais. Donc c'est à la fois un plan social déguisé et en plus c'est un transfert de la responsabilité de l'employeur qui prend cette décision parfois sans motif économique vers les salariés. Donc à un moment donné, il faut arrêter.
Avez, hein. comme Martine Aubry qu'on a entendu il y a quelques minutes, vous avez l'impression que finalement ce sont des tentatives de plans sociaux déguisés.
Totalement, c'est pas on a l'impression que c'est totalement l'esprit. C'est les ruptures conventionnelles collectives, c'est exactement ça. C'est à chaque fois, encore une fois, sécuriser l'employeur pour pouvoir licencier, parfois même sans motif. On est toujours sur le même débat demandé par le patronat depuis des années et que là, le gouvernement lui a accordé. Soi-disant, les licenciements d'aujourd'hui seraient les recrutements de demain. Les licenciements, dans ces cas-là, on les voit. Les recrutements, on les attend encore.
On avait l'impression que finalement, les syndicats étaient assez d'accord avec ces ruptures conventionnelles collectives. Non, vous écoutant, on a l'impression que vous allez vous opposer quasiment à chaque fois, quoi, non ?
Écoutez, je peux pas. D'abord, je ne lis pas dans le marc de café, mais la position de Force ouvrière, c'était une opposition à cette logique de rupture conventionnelle collective. Je constate que les représentants syndicaux dans ces deux grandes entreprises ont suivi cette position-là et ne sont pas dupes et renvoient à l'employeur ses responsabilités et viennent sur leurs propres responsabilités. Ouais. Parce qu'au moment où on attaque systématiquement le syndicalisme, moi je constate avec ces deux cas particuliers, c'est que les hommes et les femmes syndicalistes dans ces deux entreprises, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent fondamentalement à leur mandat. Et leur mandat, c'est défendre et protéger leurs collègues de travail.
C'est une victoire à Pimki, en tout cas, pour vous.
Mais c'est aussi une victoire à Peugeot, parce que dans le cadre des négociations qui ont été engagées, on est revenu sur le droit commun et il y a des embauches en parallèle de suppression de postes, mais sur un plan volontaire.
Oui, Pascal Pavageot, une question encore en fait sociale, avant de passer aussi peut-être à la politique avec Michaël Darmon et Christophe Bordet. L'assurance chômage pour les indépendants, on en est où ?
Je sais pas, on sait pas trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore une fois un grand engagement de campagne du président de la République sur lequel personne ne peut être contre, le fait de dire qu'on élargit à l'ensemble des travailleurs indépendants un système assurantiel chômage sur le principe, pourquoi pas, très bien, sauf que maintenant on est face à un problème de réalité et de faisabilité. Donc le gouvernement s'aperçoit que c'est pas si facile que ça, et il risque de créer une double inégalité avec son système, c'est-à-dire premièrement, ce ne seraient pas tous les travailleurs indépendants, et deuxièmement, les quelques travailleurs indépendants qui pourraient bénéficier d'un système chômage le serait via l'impôt alors que le reste des salariés le sont via leur cotisation.
Ouais, c'est assez compliqué effectivement tout ça. Michaël Darmon, Christophe Bordet.
Ouais, alors c'est intéressant parce que vous dites que vous êtes contre les ruptures conventionnelles collectives maintenant, sauf que lors des négociations quand même sur les ordonnances travail, on a vu Force ouvrière relativement conciliant, bienveillant avec Emmanuel Macron, à la différence peut-être d'ailleurs de la CGT. Donc la ligne à venir, ça va être quoi concrètement par rapport à Macron ? Ça va être quoi ?
Non, mais la ligne à venir, elle est la même quel que soit le gouvernement et le président de la République. La ligne, elle est ligne FO, c'est-à-dire que...
Mais c'est quoi la ligne FO aujourd'hui ?
On a du mal à... C'est que quand c'est bon, on le dit, et quand c'est pas bon, on le dit aussi. Et donc sur les ordonnances, ce qui nous convenait, ce que nous avons pu obtenir, nous l'avons dit, et ce qui ne nous convenait pas, comme les ruptures conventionnelles, dès l'époque, nous l'avons dit. Donc de ce point de vue-là, c'est une forme de, on l'appelle chez nous, le réformisme militant, c'est-à-dire qu'à la fois, on se bat pour obtenir des choses à travers la négociation, à travers la concertation, et quand ça va pas, on le conteste.
Mais dites-moi une question encore. Macron, 6 mois après, en termes économiques, en termes sociaux, vous lui donneriez quelle note ?
En termes de
sur
com,
20, allez.
Alors en termes de com, 20 sur 20. Maintenant, sur le plan social, beaucoup moins.
Et beaucoup moins, c'est plutôt, combien ?
Allez, moins de 5.
C'est la catastrophe.
Écoutez, moi je vous écoute depuis tout à l'heure, je vois que vous êtes effectivement très expert, très technique, que vous, comme vous dites, le réformisme militant est quelque chose de très précis, mais au fond, est-ce que vous êtes encore capable de créer un rapport de force et un vrai conflit avec les salariés ?
Vous savez, 36 600
est-ce que le dégagisme ne va pas atteindre le syndicat aussi ?
36 600 accords d'entreprise signés en France à 90% par exemple par Force ouvrière. Si ça, c'est pas du dynamisme syndical, si ça, c'est pas de l'action syndicale forte, aller au plus proche de l'ensemble des travailleurs, je sais pas ce que c'est.
Je joue pas rapport de force, vous me répondez action.
Oui, parce qu'une négociation, c'est un rapport de force.
Oui, mais la capacité, est-ce que vous avez, comme on l'a vu, comme on a vu les grands syndicats,
la négociation, la concertation,
la capacité d'être vraiment dans le conflit.
On va pas mesurer l'efficience ou l'efficacité du syndicalisme au nombre de journées de grève. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la manière d'arriver à défendre quand même Pimki et PSA les demandeurs d'emploi, les travailleurs, pardon, ou les demandeurs d'emploi, et d'obtenir des droits nouveaux. Et ça, c'est la concertation, c'est la négociation.
Donc, vous assumez en fait le virage aussi que veut faire prendre Macron, c'est-à-dire la négociation à l'allemande, arrête pas de faire la grève et négocions.
Non, attendez.
Enfin, le réformisme militant, non, mais, ça masque un peu ça.
Excusez-moi, mais enfin, le Monde s'est pas créé en avril 2017 et la question ni de la concertation ni de la négociation n'ont pas débuté avec la majorité actuelle.
En tout cas, ce qu'on a vu à partir d'avril 2017, c'est l'incapacité à pouvoir faire des manifestations et contester de la part des syndicats.
Mais ça n'a aucun sens. Et puis, encore une fois, revenir uniquement sur cette espèce de thermomètre-là, c'est-à-dire le nombre de manifestants dans la rue...
Vous n'avez pas bloqué la France, hein, pardon.
Oui, mais... Attendez, premièrement, il y a des réformes à venir. J'espère que ces réformes ne seront pas des réformes catastrophiques comme par exemple celle sur les retraites avec une individualisation des droits. Et là, peut-être que le moment venu, on en reparlera comme en 2010.
Allez, question sur Sud Radio de Lamine, un auditeur qui veut dialoguer avec vous en direct. C'est Lamine de Cergy, Pascal Pavageau, le futur grand patron de Force Ouvrière, vous écoute. Hein, posez votre question.
Bonjour Monsieur Pavageau, bonjour Monsieur David. Alors, écoutez, en fait, ma question était très simple. C'était, est-ce que vous ne pensez pas que pour lutter justement efficacement contre le chômage, parce que vous évoquiez justement que le vrai problème, c'est de savoir d'où vient le chômage, il faudrait pas quand même commencer à se pencher en fait sur la question des traités européens qui eux, en fait, eux débouchent complètement sur justement un chômage de masse à cause des
délocalisations, etc. Cette question européenne. Merci, Lamine. Oui. Sur cette question européenne.
C'est pas la première fois qu'on dit que aujourd'hui l'orientation économique et sociale européenne effectivement crée de l'austérité et que les propositions qui sont faites sur le plan européen conduisent à une logique de chômage de masse, pas qu'en France, mais notamment en France. Donc de ce point de vue-là, oui. Après, il faut pas dire que c'est l'Europe qui crée la situation de chômage en France, puisqu'on voit bien que les taux de chômage sont différents d'un État à l'autre. Donc il y a des choix politiques qui sont à mener et qui sont à faire, notamment par le gouvernement français. Et en l'occurrence, il nous semble qu'en matière de lutte contre le chômage, ces choix, pour l'instant, ne sont pas bons.
Merci beaucoup Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de Force Ouvrière, et on a hâte de vous entendre effectivement face à Emmanuel Macron de nouveau, parce que vous avez montré le nouveau visage peut-être de Force Ouvrière pour les mois qui viennent.
Le Grand Matin Sud Radio.